foutage.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes.
Brisé.
Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là. Elle est à 20h ou...
Martyrisé.
Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient.
Quelque chose qui ne devrait pas être dit.
Maintenant, il y en a des centaines.
Peut encore être dit.
Mais libéré.
Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Et vivre sans contrainte.
Je suis sur une radio généraliste, donc je tiens compte des grands courants.
Il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous êtes bien à l'écoute de Presse Libérée, et nous sommes dans le Lot à Corps. Presse Libérée qui entame en cette quatrième saison une tournée des territoires pour aller à la rencontre des médias libres. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à Corps, puisqu'il y a des journées bien particulières. Donc en ce week-end du 24 septembre, c'est les journées bouquets et idées, avec plein d'initiatives, plein d'alternatives qui sont présentes ici, et notamment des médias libres. Donc on va en parler aujourd'hui. On commencera avec les médias du Lot, donc à savoir le Lot en Action, Antenne Doc et Décibel FM, et puis on élargira la question aujourd'hui aux médias libres en général, en se posant la question de comment fonctionne un média libre en fait, sur le modèle de financement, le rapport au salariat, le rapport aux institutions. Et pour ça on aura donc Sideways, on aura ensuite Mediacop, et j'espère n'oublier personne. Et leur avis, oui, mais ça, leur avis. Donc Sébastien qui est avec nous, salut à toi Sébastien, et notre chroniqueur émérite, donc on le retrouvera émission après émission. Et puis pour attaquer cette saison et pour faire cette saison, on retrouve Thomas aussi au micro.
Salut.
Salut Thomas. Ce coup-ci, on est d'accord dans le Lot. Les mois prochains, on vous emmènera ailleurs. En tout cas, c'est parti pour aujourd'hui. On va commencer donc avec les médias du Lot, puisqu'on est là. Le Lot en Action avec Laurent Cougnou.
Salut.
Ensuite, nous avons Décibel FM avec Fouaz, qui est bénévole.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Et enfin, Jean-François Chavade, qui est donc à Antenne Doc. Antenne Doc qu'on remercie, puisque ils sont là pour la technique aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour nous permettre de réaliser cette émission.
Oui, bonjour, excusez-nous pour la qualité technique, il y a des moments c'est pas terrible.
Alors, Thomas, si tu veux bien attaquer sur ce qu'on a envie de savoir sur ces médias ici dans le Lot.
Alors, ce qu'on a envie de savoir sur les médias dans le Lot, c'est quel est le fonctionnement du système médiatique local, en fait, quels sont les médias principaux, quels sont les médias qui ont de l'impact, et quelles sont leurs relations entre elles. Alors, pour commencer, peut-être qu'on pourrait faire une présentation des médias ici, en commençant peut-être par le Lot en Action.
Avec plaisir. Le Lot en Action, c'est d'abord un journal, un mensuel, qui est diffusé en kiosque depuis 2009. Donc ça, on attaque la huitième année. C'est un site internet et on travaille énormément, enfin on travaille vraiment en collaboration avec en tout cas les deux radios libres, Antenne Doc et Décibel FM depuis plusieurs années.
Et est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres médias, entre guillemets mainstream, avec France 3 ou d'autres médias plus classiques ?
Assez peu. Assez peu, il y a peu d'échanges. Il y a quand même des contacts qui se font, mais il faut avouer que sur le long terme, c'est assez compliqué.
Et alors, au niveau du système médiatique local, on va dire, quel est le paysage ? Quels sont les médias qui sont dominants ? Quel est votre concurrent principal en termes de presse écrite, par exemple ?
Alors, je ne sais pas si on va parler de concurrent, parce que on est sur les terres de Bailey, donc on a un seul quotidien qui est La Dépêche. Qui a racheté tous les autres, et puis après on a des hebdos, la vie carcinoise et puis le petit journal, c'est assez pauvre, et après c'est plus des médias associatifs ou alternatifs ou libres. Après il faudrait qu'on tourne un peu autour de la définition de ce qu'est un média libre ou alternatif ou associatif, enfin voilà. Mais après il y a différentes offres et qui correspondent à un besoin, parce que sur un territoire comme le département du Lot, qui est assez grand, peu peuplé, assez âgé, si on se contente de France 3 et de La Dépêche, c'est vite limité. Donc il y a un vrai besoin. En plus, ce sont des territoires qui sont quand même assez dynamiques, même si c'est vieux. On voit que ça bouge, on voit qu'il y a énormément de gens qui sont sur le territoire et qui essaient de le faire bouger. Et là, on exerce vraiment notre rôle de média de proximité, de donner la parole et de jeter des passerelles entre les actions et les gens.
Merci Laurent, mais on va peut-être laisser la parole un petit peu à nos radios qui sont présentes ici pour donner aussi un son de cloche sur ce qu'est ce territoire. Foise, à Décibel FM, vous êtes sur deux départements.
Le siège social est dans le nord du Lot et on émet nord du Lot et sud Corrèze. Donc c'est une radio associative. Moi, je parle en tant que bénévole de l'association.
Hein.
Voilà, donc on a des programmes de musique, on essaye de donner la place à des groupes locaux et puis après des émissions de fond assez régulières, dont une en partenariat avec le Lot en Action. Et on a des échanges d'émissions parce qu'il y a Vicomté là-bas qui est sur le nord du Lot. On travaille aussi avec Antenne Doc et d'autres radios. On n'est pas en concurrence. Après, au niveau des radios nationales et régionales, on ne se situe pas en termes de concurrence parce que ce n'est pas du tout la même chose.
Alors, Antenne Doc, justement, puisque vous travaillez ensemble, là, il y a une spécificité du Lot aussi. Vous êtes bien ancré sur le territoire départemental comme le Lot en Action.
D'abord, on a 25 ans bientôt d'existence. Et c'est 10 émetteurs sur le département et c'est 3 studios Antenne Doc. Un historique qui est installé à Montcuq, sur le canton de Montcuq. Un qui est installé à Cahors et un autre à Figeac, c'est le dernier mandat qu'on a mis en place. Donc 3 équipes. Le but, c'est pas d'avoir un outil performant par rapport au nombre de studios. Le but, c'est de permettre aux gens de venir plus facilement parler dans nos micros. Parce que entre Figeac et Cahors, déjà, il y a de la distance. Et si on n'avait pas mis des studios à Figeac, eh bien, c'est sûr que les gens de Figeacois, ils auraient eu du mal à venir s'exprimer à Cahors. Donc c'est le but étant d'être une radio ouverte à tous, une radio pour les citoyens, une radio qui n'a d'autre raison d'être que d'être un service offert à la population. Pour nous, il fallait absolument mettre aussi des studios, des portes ouvertes, en quelque sorte, un accès au micro pour tous les citoyens du Lot. Alors après, on a mis 10 émetteurs sur le département, parce que comme il est un peu compliqué sur le plan géologique, avec des failles, avec des trous, avec la vallée de la Dordogne, il fallait un maximum d'émetteurs, c'est tout. Voilà.
Et justement, sur cette difficulté à mailler un territoire rural qui est assez complexe de pouvoir toucher tous les habitants, vous, en tant que radio, vous avez le problème technique, mais j'imagine qu'en tant que journal, ça doit être aussi compliqué d'être présent dans tous les kiosques. Est-ce que vous ressentez cette particularité ici à occuper ce territoire ?
C'est le talon d'Achille de la presse en général, c'est-à-dire c'est la distribution, la diffusion. Pendant 8 ans, donc, on a distribué le journal, nous on a organisé notre distribution. C'est-à-dire qu'au départ, on a pris contact avec les messageries et on s'est aperçu que c'était absolument impossible. Donc on a monté un réseau de bénévoles. Une aventure comme le Lot en Action, c'est entre 50 et 70 bénévoles tout au long de l'année. Une grosse partie pour ce qui est de la diffusion, c'est 90 points de diffusion à assurer tous les mois. Donc c'est un gros problème. On en a fini au bout de 8 ans à se dire qu'on allait passer par les messageries parce que les gens au bout de 8 ans ils se fatiguent quoi. Et même si on renouvelle les équipes, ça devient vraiment compliqué. Ben voilà, ça fait partie des concessions. Au départ, on s'était dit non, jamais ils iront se faire voir, jamais on accédera, on rentrera dans ce système-là. Et à un moment donné, c'est la pérennité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Est-ce qu'on reste aussi intransigeant ? Ou est-ce qu'on monte ? Parce que l'autre solution, c'était de monter quelque chose en parallèle, c'est-à-dire une diffusion associative, genre un MPP associative en marge du système. On s'est posé la question de la mutualisation avec d'autres titres de presse. Je pense à la Trousse Corrézienne, je pense à ceux qui se sont montés en Aveyron, à ceux qui sont dans le Tarn, et voir si on pouvait faire quelque chose. Il y a l'envie, mais entre l'envie et à un moment donné de concrétiser, comment on fait ? Il faut des salariés, il faut parce que... Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais reposer que sur un système de bénévolat ou en travaillant avec des contrats précaires et en entretenant un système, est-ce qu'on continue de remettre 100 balles dans le bastringue et qu'on va un peu plus loin ? Et on s'est dit non, on va passer par les messageries, tant pis, et c'est une concession qu'on a faite. Ouais.
Mais le choix de ne pas passer par les messageries, c'était quoi ? C'était financier ou c'était autre chose ?
C'est les deux. C'est-à-dire que financier, parce que si on n'est pas un média, si on ne représente pas quelque chose, ça devient déjà compliqué. Les messageries ne sont pas forcément intéressées. Et puis sur le système, parce qu'on est complètement dépendant d'une structure ou d'un organisme pour la diffusion. Donc l'idée de pouvoir être indépendant par rapport à ça, ou en tout cas d'avoir quelque chose de collectif, c'était plutôt sympa, quoi.
Et les radios, vous avez, j'imagine, d'autres spécificités, parce que vous n'avez pas de papier à vendre. Mais par contre, un territoire à couvrir. Jean-François Chavade, tu nous en parlais justement sur la difficulté d'implanter des émetteurs. Voilà, je sais pas, vous, du côté de Décibel FM, comment ça se passe pour couvrir le territoire ?
Alors nous, on couvre pas tout le territoire et c'est difficile, comme le disait Jean-François, parce qu'il y a des creux, des plaines, des bosses, des murs en pierre. Voilà, donc on couvre pas régulièrement. Par contre, on a décidé de nous diffuser sur Internet pour essayer de pallier à ce problème et d'être diffusé plus loin. Nous, on donne aussi la parole aux acteurs du territoire. C'est aussi le rôle de la radio, d'être un relais aux initiatives et des associations et des particuliers. Voilà, on ne diffuse pas de publicité, on n'avait pas envie. Donc après, il faut gérer tout ça au niveau étendu du territoire, parce que même s'il est, et justement parce qu'il est émaillé, ça fait beaucoup de kilomètres, c'est impossible de tout couvrir. Et on fait ce qu'on peut avec les bénévoles et assez peu de salariés.
Le département du Lot, c'est d'abord 170 000 habitants. Et avec un émetteur à Montauban, déjà on couvrirait davantage d'habitants qu'avec 10 émetteurs dans le département du Lot. Sauf que 10 émetteurs, c'est 10 fois la charge d'un émetteur, financièrement. Et c'est 10 fois la charge aussi, techniquement, c'est-à-dire pour l'entretien, pour, au niveau humain. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'émettre correctement pour les 170 000 habitants du Lot que d'émettre pour 170 000 habitants de Montauban. L'autre aspect qui est intéressant, par contre, c'est qu'on est dans une zone rurale, et donc les gens qui vivent ici, à l'année, je parle, ils ont besoin quelque part de se reconnaître entre eux, d'abord, se reconnaître par rapport à leur territoire, et donc se reconnaître aussi dans leur radio. Et ce qui est le plus agréable, peut-être, c'est que si nous existons et si nous avons un impact auprès des habitants, c'est grâce à cette notion de reconnaissance. On devient leur radio. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus facile dans une zone rurale que ça ne l'est dans une zone urbaine. Et surtout, que ça ne le sera sur Internet, parce qu'alors sur Internet, la reconnaissance, elle est quasiment inexistante en tant que telle, puisque tout le monde, japonais, canadien, ou chinois, ou ce que vous voudrez, peut vous écouter sur Internet.
Et justement, par rapport à ce territoire local et ces médias locaux, est-ce qu'il y a une véritable, vous disiez que vous fonctionnez avec beaucoup de bénévoles, une véritable appartenance et un soutien des habitants pour que les médias existent, étant donné qu'il n'y a pas d'autre alternative ?
Difficile, apparemment.
Ouais, la question est compliquée. Après, on n'a pas la même approche entre une radio et la presse. Nous, la presse, il y a un journal papier qui est sorti, et que la façon pour les habitants d'un territoire, les citoyens, de nous soutenir, c'est de lire le journal et donc de l'acheter. Pour une radio, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a un autre mode de financement. Mais oui, on trouve forcément sa place. Parce que c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offres, hormis les médias dominants, et qui sont peu nombreux, on n'a rien. Donc ça correspond à un besoin, dans le sens où, en tout cas au niveau du journal, c'était une volonté de citoyens qui se sont groupés pour se dire on a besoin d'un outil pour s'exprimer, pour pouvoir jeter des passerelles entre les acteurs du territoire. Et donc si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le créer, quoi. Et la question qui s'est posée, au départ, elle ne s'est pas posée. C'est il faut faire quelque chose, on le fait. C'était bénévole, c'était une volonté citoyenne. Après, c'est l'aventure de tous les médias. C'est-à-dire qu'on crée un média, il correspond à une attente, il se développe. Et donc forcément, on a besoin aussi, nous, après, de se développer en termes de compétences, en termes professionnels, de distribution. Il y a tout un tas de questions qui se posent. C'est là qu'on met le doigt dans le bousin. C'est qu'on accède à autre chose et que... il faut des salariés à un moment donné. On peut tourner les choses comme on veut, une période de chômage, c'est bien, on peut faire quelque chose, mais après il faut en vivre, quoi. Et on peut pas tout le temps soit demander aux gens d'être bénévoles, soit essayer de trouver des solutions. Nous, on l'a fait, hein, au Lot en Action, on est deux contrats aidés, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la disparition des contrats aidés amène aujourd'hui à une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on perdure ? Alors ce système pour nous était pas satisfaisant, parce que le contrat aidé, c'est des miettes qu'on nous gère. C'est quelque chose, c'est pas un vrai statut. On exploite finalement des gens, parce que même s'ils ont envie de le faire, on est ok, c'est passionnant, mais voilà, ils sont payés une bouchée de pain, une misère, c'est pas satisfaisant. Mais à un moment donné, on n'a pas eu le choix, donc on l'a fait, on l'a développé. Au bout d'un moment, quand on parlait de mutualisation, ça fait des années, on se connaît tous autour de cette table, ça fait des années qu'on parle de mutualisation. Ça fait des années que certains disent, ben ouais, mais il faut changer de paradigme, il faut tout envoyer péter, on ne peut pas se satisfaire d'un système comme ça, quoi. Et puis au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? Là, on a des gens qui sont en contrat aidé, on ne peut pas les renouveler, ils sont passionnés, ils ont envie. On en arrive à leur dire, ben écoute, on va te faire un contrat où tu vas gagner 250 balles par mois, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on a envie de se réveiller en se disant, c'est pas possible. Mais pour ça, seul, c'est super compliqué. Dans la mutualisation, c'est aussi compliqué. Mais peut-être qu'il faut réinventer le système. C'est-à-dire que peut-être c'est le moment-là. Je sais que tout le monde sera peut-être pas forcément d'accord, mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est là, comment on fait? Est-ce qu'on se mutualise? Est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour les financements? Comment on fait? Est-ce qu'on s'adresse qu'aux citoyens? Est-ce que, voilà, après, tout est ouvert et c'est là que ça devient très complexe.
T'as jeté déjà les bases du débat qui aura lieu en deuxième partie d'émission, Laurent. Mais pour finir sur le Lot, il y avait une question qui nous semblait très importante à vous poser, parce que c'est une question qui est fondamentale, surtout pour des médias en milieu rural où les élus sont plus accessibles peut-être que dans les grands centres urbains. Quel rapport vous entretenez avec les élus locaux? J'imagine qu'il est bien différent que celui que les médias comme France 3 ou La Dépêche, puisqu'on parlait de La Dépêche chère à M. Baillet tout à l'heure. J'imagine que vous construisez un rapport différent avec les élus locaux.
Alors pour ce qui est de Décibel, oui, nous on essaye de les rencontrer déjà pour leur présenter la radio, parce que certains ne connaissent pas, une partie est intéressée, mais ce n'est pas toujours ceux qui décident au niveau financement. Et bon, on n'en a pas beaucoup d'élus qui décident, parce qu'ils ont un peu plusieurs casquettes. Et ceux qui décident au niveau financement, la radio, une radio associative, ça leur plaît pas, parce que on défend, en tout cas on donne la parole à des gens qui sont un peu contre certains projets, qui leur tiennent à cœur. Donc non, la radio, ça les passionne pas.
Du coup, ils sont plutôt éloignés de ça.
Même si on leur propose de venir répondre sur certaines questions, il y a des projets sur le nord du Lot qui nous paraissent un peu aberrants.
Quel type de projet, par exemple?
La construction d'une déviation d'une nouvelle route entre Biars et, au départ, c'était Brive, maintenant c'est sur Souillac. Un projet inutile, la réfection d'un pont dont on se dit qu'il va servir à ce projet. Alors on a eu tous les opposants qui venaient s'exprimer, les pour c'est plus compliqué, même si on a réussi une fois. Et pour eux, donner la parole comme ça, c'est pas possible.
Et quand vous parliez de financement, vous parlez à la fois de subvention et de publicité.
Alors nous, les radios fonctionnent avec une subvention d'État. Et après, oui, on cherche des financements au niveau de la Comcom, nous. Bon, maintenant, on a une énorme communauté de communes, donc ça a absorbé plein de choses. On est en train de monter des projets, justement, pour assurer la pérennité de la radio et de l'emploi CAE qui doit s'arrêter en décembre. Et puis, voilà, c'est un petit peu compliqué à trouver, sachant que, par exemple, la subvention, alors je ne suis pas antenne doc, mais nous, elle arrive en deux parties. Il y a quelques mois où les charges restent les mêmes et où on était à découvert. Et où il y a un an, le banquier a décidé de nous supprimer le découvert d'un jour au lendemain. Donc on cherche pour pallier à cette chose et à continuer d'exister, oui. On a réussi, là, pour l'instant, à faire la nique au banquier.
Ça vous met dans des situations de trésorerie compliquées.
Bah, toujours précaires, ouais. Oui.
Donc cette subvention dont on parle, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Oui. Donc qui finance les quelques 600 radios associatives quand même en France.
Jean-François, 600 et un peu plus.
Un peu plus, oui. Ouais. Jean-François.
Oui, non, mais tu parlais des rapports avec les élus. Alors les rapports avec les élus, on va revenir là-dessus, parce qu'ils sont complexes. À partir du moment où il s'est avéré que nous étions un média écouté par un certain nombre de citoyens, les élus se sont montrés, je dirais, plus compréhensifs et ils ont plus facilement répondu pour venir parler dans nos micros. C'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés, nous, de notre côté. Simplement, on n'a pas forcément envie d'aller interviewer des élus pour qu'ils disent des banalités, et c'est souvent le cas. Donc pourquoi c'est le cas? Parce que tout simplement, si vous avez entendu déjà un discours d'un élu politique lotois ou d'ailleurs, à l'intérieur, il n'y a pas forcément grand-chose, à moins de comprendre à demi-mot ce qu'ils n'osent pas nous dire. Bien souvent, on a du mal à leur faire répondre clairement à des questions un peu plus précises que celles que nous posons. Vraiment, nous,
sommes habitués à cela. Alors de temps en temps, on va avoir le préfet, la préfète, ou peu importe, ça change sans arrêt, d'ailleurs, préfet, préfète. On va avoir des gens comme ça qui vont venir discuter. Ce n'est pas là la question. La question, elle est, c'est comment un territoire, comme le département du Lot, pourrait-il, s'il le souhaitait, financer des médias locaux. Voilà. On voit des publications qui sortent, des publications du Conseil général, qui sont sur papier glacé, avec des belles photos, particulièrement onéreuses. On préfère ne pas demander combien ça coûte. Mais avec ça, je pense qu'on pourrait financer pas mal d'emplois à l'année dans nos médias libres, parce que nous n'avons pas les mêmes prétentions que Contact Lotois ou je ne sais trop quelle autre publication. Bon. Alors ça, c'est un premier point. Mais en plus, je suis persuadé que nous serions plus lus ou écoutés que Contact Lotois, parce que bon, ça va un moment, mais les belles photos sont là, on me montre Saint-Cirq-la-Popie, on se demande pourquoi Saint-Cirq-la-Popie.
Donc si je comprends bien, Contact Lotois, c'est la publication du Conseil départemental.
Du Conseil départemental. Oui. Mais, oui, tout
de même. C'est bien précisé pour nos auditeurs qui ne sont pas auditeurs, voilà.
Mais ce qui est clair, c'est que les photos sont choisies, bien sûr, elles sont toutes belles. Hein, elles sont toutes belles. Même si on vous montre le CIDED, le syndicat de retraitement des ordures ménagères, on se débrouille pour que ça soit beau. Voilà. On y parle rarement des conditions de travail des gens qui y sont employés, ça c'est certain. Et on y voit rarement des articles, on n'y voit jamais, pardon, des articles contradictoires, des articles qui pourraient porter tort, même pas porter tort, peut-être simplement soulever un lièvre, comme on dit, par rapport à quelques politiques locales. Bon. Alors nos élus locaux, ils préfèrent financer ça que financer des médias qui vont dire les choses telles qu'elles sont, c'est clair, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on a une chance actuellement. Actuellement, on peut imaginer qu'avec la région Occitanie, on arrive pour nous, Radio Associative, à obtenir, comme nous l'avons eu un moment avec la région Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, à obtenir quelques subsides complémentaires. Bon, quelques miettes, hein, faut pas s'affoler, quelques miettes. Sans compromission, je précise, il ne s'agit pas d'aller se vendre à qui que ce soit. Mais bon, c'est prévu. En complément du financement du ministère, la région Occitanie a décidé de nous apporter, selon ce que nous donne le ministère, une aide complémentaire. Bon, on va voir. C'est en cours. Les dossiers sont partis. On n'a pas encore les résultats, parce que l'Occitanie, il faut un certain temps pour qu'il se réveille quand même. Hein, entre... voilà. Donc on peut espérer ça. Mais sinon, on peut des médias, des élus locaux, quand on monte un projet, quand on monte quelque chose, on va avoir une aide, disons, modeste, une aide symbolique, je dirais, des communautés de communes ou d'une commune. C'est bien, on ne va pas se plaindre, mais bon, on aimerait quand même de temps en temps qu'il y en ait un peu plus. Ceci dit, ils ne seront jamais prêts à concéder des subventions ou des finances sans contrepartie. Et la contrepartie, on n'est pas d'accord pour la donner. Ça, c'est clair aussi. On est libre et on entend le rester.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine.
Tu te le roules en cône, tu te le...
table et tout le conseil de masturbation. Pas comme ça demain, on fait le mur, on détale tous, on déclare le rêve général. Nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail, à tous ces DRH et autres grands prêtres en management. Le devoir d'en finir. Vous m'entendez les galériens? On prend sa main droite, on prend une feuille, un stylo, on écrit. Madame, monsieur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous caler ma démission entre les deux parties charnues et avec mon meilleur souvenir. Démission, vous êtes pas encore parti. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, sans vous faire brûler. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés.
Vous êtes toujours dans Presse Libérée, donc nous sommes depuis un plateau radio à Corps dans le Lot. Donc vous l'avez compris, on a parlé des médias lotois. Pour la suite, on va accueillir Sébastien qui vient nous faire sa chronique de l'état des lieux de la presse pas pareil, avant de lancer le débat plus généralement avec les autres médias non lotois qui sont ici aussi.
Oui, bonjour. Bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, et puis d'ordinaire, on fonctionne à l'arrache. Normalement, quand on est à Marseille, on est entre nous. Il y a presque le bruit des verres et des cacahuètes. En gros, il paraît qu'on sait que Macron serait le candidat des médias. Mais le constat, c'est que c'est vraisemblablement pas le candidat de nos médias, les sans grade, les pas pareils, les associatifs, les citoyens, les gueux, quoi, les feignants. Bon, par contre, on peut pas dire qu'il a rien fait. Les pouvoirs publics, en général, font des choses. Quand la rédaction de Charlie Hebdo se fait décimer, on a le droit à un amendement ou un abattement pour les médias qui n'ont pas de ressources publicitaires. Et donc là, on a été un certain nombre aussi à venir réclamer quelques petites miettes, parce qu'on réclame pas grand-chose d'autre. Donc cet été encore, pour la deuxième année consécutive, le ministère de la Culture et de la Communication a dégainé ce fonds qui avait été mis en place à la suite de la tuerie de Charlie Hebdo, le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité. Un fonds qui, en plus, au niveau de la région, enfin c'est ce que j'ai écrit dans le Ravi dans le dernier numéro, qui est en distribution gratuite, profitez-en. C'est un fonds où il y a pas mal de médias qui ont, dans le coin, en Occitanie, dans la région, qui ont pu en abonder. Donc c'était un fonds destiné aux médias sur la base de leur production d'informations au niveau local, mais aussi sur leur capacité à faire vivre le débat public et la vie démocratique en animant des ateliers de journalisme participatif dans les quartiers ou d'éducation aux médias dans les écoles. Voilà, en gros, il y a un décret d'application qui est sorti là-dessus. Bon, c'est un fonds, alors là, ça a l'air parfait, mais c'est un fonds qui représente 1,5 million d'euros. Bon, les aides à la presse classique, c'est environ 1 milliard d'euros, et pour le FSER, on est à combien? Est-ce que tu peux...
30 millions.
À 30 millions. Donc voilà, ça permet de recadrer les choses. En gros, le fonds média d'information sociale de proximité, c'est une centaine de médias qui doivent se partager, c'est 1,5 million. Donc en gros, la dotation maximum est de, là, cette année, c'était 18 000 euros. Combien? Ouais, 17 000 même. Il y a une 18 700. Allez. C'est champagne. Si cette année, l'une d'entre nous, Héloïse Lebourg, qui va pouvoir nous raconter comment ça s'est passé à l'intérieur, elle a des choses à nous dire, qui est l'instigatrice de la coordination permanente des médias libres et des rencontres qui se font à MEMAC depuis un certain nombre d'années, et où on se rend un certain nombre pour pouvoir discuter médias libres et joie de vivre. Elle a pu participer à la commission informelle d'attribution, bon, ce qui a permis de défendre un certain nombre de dossiers. Mais bon, il y a encore pas mal de médias qui sont restés sur le carreau, parce que là on parle d'une centaine de médias qui ont pu profiter de ce fonds. Il y a eu combien de dossiers? 437 dossiers. Bon, voilà, ça permet de donner une idée de voilà. Donc parmi les médias qui sont restés sur le pas de la route, il y a les collègues de l'Utopique, où le flou autour des critères d'attribution qui autorise toutes les interprétations. Et puis même le Lot en Action, on pourra revenir dessus, mais le Lot en Action, d'après ce que j'ai compris, vous avez failli ne pas le toucher parce que le ministère n'aimait pas votre site internet.
Moi qui l'ai dit, c'est toi. Hein. Parce qu'elle est, oui, je vois, il me fait des gros yeux, tu dis pas trop de trucs. Non, voilà, nous, l'appel à projet au départ, c'était un appel à projet. Donc on avait fait, et c'est très compliqué de monter le dossier, donc on l'a pas eu. Du coup, l'année dernière, quand ça a été fait, on s'est dit qu'ils allaient se faire voir, quoi, monter un dossier, etc. Et aux dernières rencontres de MEMAC, Hello nous a dit « Ah si, quand même, allez-y ». Donc on a monté le dossier. Mais on est passé que parce que Héloïse, on a eu la chance que Héloïse fasse partie de la commission et puisse aller défendre les dossiers. Mais si Hélo n'était pas là, on ne l'avait pas, puisque la DRAC, quand ils sont arrivés, il s'était basé que sur notre site internet, et qui pour nous est important, mais je veux dire, l'objet de l'association, c'est quand même d'éditer un journal. Ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un journal, quoi. Donc l'avis était négatif. Et si Hélo n'avait pas été là pour sortir les trucs, on n'avait pas la subvention, quoi.
Belle illustration de comment ça se passe dans le monde merveilleux des médias libres. Mais enfin, au-delà de ce fonds, qui est donc, vous avez compris, qui est très conséquent, qui permet d'avoir 18 000 euros au maximum, là, avec Macron, le changement, c'est vraiment maintenant. On est en train de vivre une situation qui est exceptionnelle parce que paradoxale. D'un côté, on a les pouvoirs publics qui soutiennent des médias, notamment pour le travail, on va dire, d'intérêt général qui est mené sur les territoires. Et de l'autre, on leur retire, avec la fin des contrats aidés, on leur retire les seuls types de contrats, bien souvent, qui sont en capacité de se payer. Donc on est dans le prochain numéro du Ravi que vous pourrez vous procurer maintenant avec la librairie de Cahors, que vous pourrez trouver aussi sur Internet. Vous pourrez lire un rapide état des lieux des médias qui sont impactés par cette mesure et qui, pour certains, risquent de remettre en cause l'existence même de certaines publications. Par exemple, encore une fois, l'Utopique. Mais les autres possibles, bon, on en discutera aussi, ouais, le Lot en Action, évidemment, ou qui peuvent compromettre un certain nombre de projets ou d'embauches, comme un reporter ou au sans-culottes en Vendée. Donc il n'y a pas que les journaux qui sont concernés, il y a les télés participatives et les radios associatives. Notamment, il y a eu dernièrement un communiqué du SNJ-CGT, le très sérieux syndicat national des journalistes CGT, qui a dit ne pas être favorable à ce type de contrat pour toutes les limites qu'on peut... Enfin, au Ravi, par exemple, tous les salariés, tous les journalistes sont passés par des contrats aidés, on sait ce que ça veut dire. Donc ils ne sont pas favorables à ce type de contrat, mais ils ont relayé les inquiétudes du syndicat national des radios libres, qui redoute la suppression de près d'un millier d'emplois et même la fermeture pure et simple d'un certain nombre d'antennes. Voilà. Et en s'interrogeant, je cite, « Est-ce le but recherché par le gouvernement pour laisser le champ libre aux réseaux commerciaux ?» Parce qu'on l'a bien compris, Macron, c'est le candidat des médias.
Merci Sébastien. Je rappelle donc qu'autour de la table, nous avons Jean-François Chavat donc, pour Antenne Doc. Nous avons Fouaz pour Décibel FM. Nous avons Laurent Cougnou pour le Lot en Action. Et on va accueillir aussi Héloïse Lebourg pour Mediacop.
Bonjour.
Et Hélène Leguet pour je vais y arriver, Sideways.
Merci. Voilà. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez présenter déjà vos médias, histoire qu'on vous resitue ? Donc on va commencer avec Mediacop et Héloïse.
Ouais. Alors nous, Mediacop, on est un média sous forme de coopérative. On est une SCOP. On est basé en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et notre travail, c'est du journalisme qui va être soit sur du documentaire, documentaire audiovisuel, hein, des films, ou alors on fait en plus 3-4 reportages par semaine de local. Et puis ça nous arrive assez régulièrement de faire aussi du reportage national quand on a des sujets. On a réussi à trouver notre modèle de financement grâce aussi à l'éducation aux médias, puisqu'on intervient beaucoup dans les écoles et dans les prisons, les hôpitaux, etc., pour faire des projets de médias avec des apprentis journalistes. Voilà.
Hélène, Sideways, c'est quoi ? Dites-nous.
Alors, Sideways, c'est une série documentaire. On se trouve à la frontière du mot média. Est-ce qu'on est un média ? Est-ce qu'on n'en est pas ? En tout cas, on produit de l'information. On réalise une série documentaire sur des personnes qui nous inspirent pour apporter de l'information positive, notamment comme l'Utopique, puisqu'on en parle beaucoup, Silence, L'Âge de Fer, qui font également partie de la coordination permanente des médias libres. Et par contre, on a un modèle particulier puisqu'on est basé uniquement sur la participation libre, donc financé par les personnes qui soutiennent le projet de toutes les manières possibles. Ça peut être aussi bien de manière monétaire, en compétences. Il y a beaucoup de personnes personnes qui nous aident à faire des traductions, à améliorer les épisodes avant publication, et aussi en nature, en panier de légumes, on va dire. Parce qu'en fait, Benoît et moi, donc on n'est que deux sur le projet, on vit sur la route et on passe notre temps à aller rencontrer des personnes et à faire des projections sur la route tout en trouvant nos sujets et en les diffusant. Et tout est diffusé après sur Internet. C'est pour ça qu'on est un peu à la frontière, c'est que c'est notre mode de vie, notre choix de vie qui est donc particulièrement propre à nous.
Et qu'est-ce que c'est les sujets positifs ?
Un épisode, c'est des vidéos courtes de 5-10 minutes et un magazine sur Internet sur des personnes qui ont réussi à trouver leur voie et qui nous montrent qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Par exemple, on va avoir un boulanger qui a réinventé son métier, qui travaille que 2 jours par semaine, qui a laissé sa caisse au client et qui montre que grâce à la confiance, il gagne 2 jours de vie en plus par semaine, ce qui est loin d'être peu conséquent, et qu'en fait, à partir du moment où on retrouve de la confiance et de la solidarité entre nous, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui recréent de la liberté. Il y a un autre épisode sur un berger à Bagnolet. Son idée, c'est pas de faire de la tondeuse urbaine. Non, c'est les chèvres, elles mangent de la nourriture, elles mangent pas de la pelouse, ça sert à rien la pelouse. Mais par contre, il amène de la vie, il se balade avec ses chèvres, il fait des activités avec les enfants, il fait ce qu'il appelle du pâturage social. La présence des chèvres fait que les gens recommencent à se parler. Et en fait, les chèvres, au final, n'ont pas d'autre intérêt que de faire en sorte que les êtres humains se parlent entre eux. C'est un peu montrer qu'il y a plein d'imaginaires et plein de choses qui sont possibles, qu'on oublie, et que faire appel aux rêves et à l'imaginaire permet parfois de trouver des solutions extrêmement simples à des problèmes compliqués.
Alors venons-en justement, avant d'aborder le débat sur les contrats aidés qui a été déjà un petit peu entamé, parce que vous, à Sideways, vous proposez quand même un pas de côté de ce côté-là. Alors, est-ce que vous versez un salaire ? Voilà, comment vous fonctionnez vous-même ?
On n'a pas de salaire, en fait. De la même manière qu'un réalisateur de documentaire va faire un film à Haïti, on lui paye son hôtel, son logement, son hébergement. Bah, l'association nous finance le transport en camion, les dépenses liées à notre habitation, notre nourriture et tout ce qui va avec, ce qui fait qu'on n'a pas de salaire. Nous, ça nous convient totalement, mais ça convient pas forcément à des personnes qui ont envie de vivre en ville, qui ont des enfants à charge, qui ont plein de choses différentes. Voilà, c'est une proposition qui fonctionne pour les personnes à qui ça convient. À chacun de trouver la solution qui lui convient, et je suis persuadée que chacun des médias pourra trouver une solution à lui-même qui correspondra à son contexte local. Et c'est ça le plus compliqué, c'est de réussir à sortir du cadre pour réussir à trouver des solutions.
Bon, bah, du coup, sans transition, j'ai envie de dire, reparlons de ces histoires de contrats aidés. Est-ce que vous pouvez nous dire... Pardon, Jean-François.
Oui, juste sur les contrats aidés, on peut y aller carrément. Mais je voudrais simplement qu'on arrête de dire des choses fausses. Ce n'est pas la fin des contrats aidés. Non, j'ai lu l'arrêté du préfet de région. Il est clair, ce n'est pas la fin des contrats aidés. On en est loin. Bon, il y aura quelques renouvellements de conventions par rapport aux gens qui travaillent dans l'éducation nationale. Il y aura effectivement, pour les gens qui sont de plus de 50 ans, handicapés ou qui ont des problèmes, quelques renouvellements de conventions prévus. Et puis, il y aura surtout, évidemment, des contrats aidés à 35 heures par semaine qui seront pris en charge à 35 heures par semaine avec, bien entendu, une catégorie spéciale. Il s'agit des agents de sécurité. Les agents de sécurité, eux, dans la directive, c'est clair, priori, il y aura autant de conventions qu'on veut.
Vous
n'avez
pas recruté en Tendoc des agents de sécurité, a priori.
Ah ben, on se demande. On se demande. On pourrait y venir. Mais pour les agents de sécurité, c'est pris en charge. C'est à 35 heures, 70%. Ouais. Et en plus, les conventions sont de 2 ans. Pas de 6 mois, de 2 ans. Il n'y a aucun problème. Il y aura toujours des contrats aidés. Ne vous y trompez pas.
Bon, c'est peut-être un biais pour embaucher notre salarié en agent de sécurité qui fait des émissions. Alors moi, je tiens à dire que je suis depuis toujours opposée à ces emplois aidés, que je trouverais mieux des vrais boulots avec des vrais salaires et un vrai statut. On y est arrivé, nous, on a un emploi en CDI, on a essayé de salarier 2 personnes en CDI, mais ça rentre pas dans le budget, avec les charges. Donc on a maintenu un CDI et donc on a pris des CAE parce que les CAE nous permettent de faire comme si on avait des rentrées d'argent, et comme on a des rentrées d'argent, on a un peu plus de subventions. C'est d'une logique à toute épreuve, alors qu'un CDI, c'est une sortie seulement. Voilà, donc toujours est-il qu'on a pris des CAE. En général, ce sont des gens qui ont envie de faire ce boulot, quel que soit le salaire. Le jeune, nous, ça s'arrête au 1er décembre, puisque ça fera un an. On a la confirmation que ça ne sera pas prolongé. Il faisait 24 heures. Il veut continuer. Donc, on a décidé, de, avec son accord et à sa demande, continuer, puisqu'il faisait 24 heures et qu'il nous restait à charge 400 euros, de lui faire un CDD de 12 heures, où il va gagner 400 euros. Et on monte des projets pour essayer de faire rentrer de l'argent pour augmenter son temps de CDD, parce que c'est, enfin bon, c'est honteux pour moi de proposer ce genre de choses.
Le CAE, qui est le contrat d'aide à l'emploi, donc on parle bien des contrats aidés.
Oui.
Sébastien.
Ouais, moi j'avais juste une précision. Enfin, le CAE, on parle effectivement de contrat précaire, effectivement, mais en gros, rien n'interdit le CAE. C'est ni plus ni moins qu'une prise en charge par l'État ou une collectivité des coûts d'un salaire. Rien n'interdit par rapport à un CAE. La personne veut la payer au-delà du SMIC. Et voilà, c'est au moins, c'est juste une base, une aide en particulier. Mais c'est vrai que ça nous amène dans un certain nombre de structures à justement là à être complètement fragilisé parce que il n'y a plus d'aide, alors qu'on sait très bien qu'au niveau d'un certain nombre d'entreprises dans le BTP et tout, la subvention, ça s'appelle de la commande publique, que quand Estrosi en PACA a envie d'aider une télévision qui s'appelle TV Azure, il est prêt à sortir l'équivalent pour une télé de ce qui est versé pour l'ensemble des médias libres, pas pareil, plus de 1 million d'euros pour une seule télé. Là, on se le partage à 100. Et la question qui se pose au-delà de ça, donc du rapport de force qu'on a à mettre en place avec nos interlocuteurs, politique, DRAC, ministère, c'est aussi la question de comment on se débrouille aussi entre nous. Et la question de la... Moi, ce qui me paraissait intéressant ici, c'est la mutualisation que vous avez pu mettre en place avec la trousse corrézienne, avec, enfin, en gros, comment... Au-delà de, un, est-ce que vous avez la capacité de gueuler ensemble? Et deux, est-ce que vous avez la possibilité de faire autrement ensemble?
Ça me semble indispensable. C'est-à-dire que depuis le début, alors on est peut-être un petit peu utopiste, rêveur, mais si on a rejoint la coordination permanente des médias libres aux rencontres de MEMAC, c'est justement parce qu'il y a cette perspective-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut faire ensemble? Je vais reprendre le vieil adage, mais c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite tout seul, mais on va beaucoup plus loin ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut mutualiser? C'est pas que mutualiser du contenu, c'est-à-dire que on est tous à fond dans nos coins. On n'a pas le temps ni l'espace de prendre du recul et pour pouvoir s'organiser. Et qu'à un moment donné, il faut faire ensemble. Si on veut aller au-delà du discours, à un moment donné, ce qui s'est passé avec la trousse corrézienne, c'était ça. C'est-à-dire, c'est d'être dans l'essaimage. C'est-à-dire qu'il y a un besoin comme ça en Corrèze, ils veulent le faire. Eh bien, on se retrousse les manches et on y va. Donc, ils sont venus, on les a intégrés dans l'équipe et on les a aidés à mutualiser l'imprimeur, les coûts de transport, la distribution au début, de manière à ce qu'ils puissent, eux, se lancer. L'idée, c'était de faire ça, que cet essaimage, qu'eux, à leur tour, essaient, mais qu'on fasse du lien avec les autres médias corréziens un peu partout. Parce que je reste persuadé que si on change de paradigme, et je pense qu'on n'a pas d'autre solution, on peut faire bouger les choses et on peut arriver à inventer de nouvelles choses. Alors, c'est pas facile. Il y a la production de contenu, il y a l'assistance, mais il y a aussi comment on va chercher des fonds, quoi. Alors, ce qui est clair, c'est que, par exemple, si on regarde la CPML, ça existait déjà pour les radios parce que ce travail a été fait depuis 80, 81, même avant, parce qu'il y avait les radios pirates. Enfin, les gens se sont organisés. Et moi, j'avais qu'un regret, c'est de me dire on est tous d'accord, mais ça bouge pas vraiment, quoi. C'est pour ça que ce qui s'est passé à la CPML, c'était intéressant. Et puis, cette interpellation des officiels du ministère de la Culture a permis quand même de déboucher, alors peut-être qu'il y avait les circonstances, mais a permis de déboucher sur quelque chose. C'est pas satisfaisant, tu le rappelais tout à l'heure, 1,5 million d'euros par rapport au nombre de médias. Et encore, là, tu disais, il y a eu 400 et quelques dossiers. Je crois que sur la première demande, on était à plus de 600. Et encore, les gens n'étaient pas au courant. Donc, il y a combien de médias qui en ont besoin en France et qu'on pourrait en réorganiser? Tu parlais des aides à la presse, et encore, ils ont amélioré un petit peu le truc, entre guillemets, amélioré. Hein. Voilà, on n'est pas loin du milliard, et quand on voit qu'il y avait, alors ça a un peu changé, mais enfin que les télé 7 jours, télécâbles, etc., raflaient des millions d'euros qui sont largement supérieurs au montant même du FSER, combien de médias on pourrait faire vivre? Et ça, c'est déjà des fonds publics, c'est-à-dire c'est pas, on parle pas d'aller chercher des fonds supplémentaires, d'augmenter les impôts, mais simplement de réattribuer les choses. Ça fait partie des valeurs qui constituent notre société aujourd'hui. On voit qu'on est en train de nous les enlever. je pense que les gens sont pas assez courants. Alors nous, on essaie de faire notre boulot, on essaie d'expliquer pourquoi. Je pense qu'on hérite de cette responsabilité de nous organiser aujourd'hui et d'être capable de porter à nouveau ces valeurs. Malheureusement, on a plus tendance à être solidaire et à l'écoute des autres quand on est dans une situation de difficulté. Voilà, je pense qu'on est dans une période charnière là et qu'il faut probablement pas qu'on loupe le coche, parce que si on loupe le coche, on va être très nombreux à disparaître.
Louise.
Ouais, moi je veux bien peut-être revenir au départ, enfin à quoi ça sert un média libre, enfin, pourquoi ça existe un média libre, parce que tout le reste des médias n'est pas libre, parce que tout le reste des médias appartient à des gens qui nous disent comment penser et quoi faire. Donc le média libre, il est là pour faire un contre-pouvoir à l'information de masse. Donc voilà déjà pourquoi on existe. Effectivement, la CPML, comme tu l'as dit, c'est en fait la coordination permanente des médias libres. Donc c'est une coordination qui regroupe je sais plus combien, 70-80 médias sur toute la France et qui se sont dit bah ouais, tout seul dans notre coin on n'y arrive pas, donc peut-être qu'on va essayer de s'organiser ensemble pour essayer d'avoir un peu plus de chances d'être écoutés. Ce qui a été un petit peu le cas, puisqu'effectivement moi j'ai pu siéger à la commission donc, qui distribue le fonds de soutien de médias de proximité. Après, qu'est-ce que c'est qu'être un média libre ? Est-ce qu'un média libre doit avoir l'argent de subvention ? Voilà. Alors nous, à Mediacop, je reviens juste sur les contrats aidés. Nous, on a fait en sorte de ne pas en avoir. Donc il faut savoir que quand on est une SCOP, on est tous associés salariés. Donc on est tous au même salaire et on n'a aucune aide de l'État pour nos salaires. Ce qui nous oblige à avoir pas mal de formes de financement. Donc on a accepté la subvention hein, du fonds de soutien malgré tout. Enfin, on a postulé. Et puis on postulera s'il y a d'autres choses qui interviennent pour nous. Parce qu'on estime qu'effectivement, si votre argent de contribuable finance TF1, pourquoi elle ne financerait pas Mediacop, qui fait aussi un travail, même si en étant 5, on ne fait pas le travail d'une équipe de TF1.
Tu pourrais revenir sur les objectifs de la CPML.
Et donc, bah voilà, la coordination permanente des médias libres, c'est déjà au départ, c'était d'avoir vraiment d'être reconnaissable en fait ensemble avec la coordination. Voilà, c'était dire voilà, nous sommes quand même de nombreux médias libres sur ce territoire et si on est tout seul, vous nous voyez pas, mais si on est plusieurs, peut-être qu'on commence à faire poids et puis on a quelques communiqués en commun.
Au-delà d'une organisation nationale comme la coordination permanente des médias libres, il y a aussi une première expérience qui a été menée en Rhône-Alpes avec Médias Citoyens, et on a décliné cette expérience en Rhône-Alpes, en PACA, avec bon, des envies à la fois de faire ensemble, et ce qu'on fait aussi avec la CPML, c'est-à-dire des sites internet, on montre qu'on est en capacité à faire de l'information en commun, ensemble, et de faire entendre d'autres voix, notamment sur la COP21, on a fait un site internet sur les plus belles opérations de greenwashing. Chacun venait avec sa belle histoire d'écologie pour de faux de sa région. Et il y a eu des trucs géniaux. Et on a fait pareil avec les élections, en voyant voilà, qu'est-ce que les élections révèlent de pire et de meilleur de la politique. Donc on avait plein d'histoires à partager. Là, on va avoir quelque chose par rapport au travail. Et en région, actuellement en PACA, on va reprendre un peu les discussions. Il y a des envies de faire des choses ensemble, notamment sur l'éducation aux médias. Mais là, vu le contexte actuel, à la DRAC, on n'a pas envie d'aller la voir en lui disant ben, on a envie de faire un super projet sur l'éducation aux médias. On a envie de dire le préalable, même si c'est des contrats de merde, c'est les contrats aidés, vous nous les rendez parce qu'on est dans des missions d'intérêt général. Et après, on peut discuter.
Quand j'ai commencé à faire de la radio, mon premier emploi, c'était un TUC. Rien à voir avec les biscuits apéritifs. C'était un travail d'utilité collective, c'était un emploi aidé. On a toujours eu des emplois aidés, et je trouve que c'est absolument lamentable, quelque part, dans la façon dont on a traité ces gens-là et dont on nous a utilisés, nous, pour, en quelque sorte, essayer de nous faire réduire le chômage. Le problème n'est pas là. Si on nous avait versé à chaque association qui avait des emplois aidés, si on nous avait versé exactement le même montant, eh bien, nous aurions employé, à condition bien sûr qu'on emploie les gens, bon, bien sûr. On aurait employé les gens, mais au bout de 2 ans, on ne les aurait pas foutus à la porte. On les aurait gardés après les avoir formés, puisqu'on aurait continué à toucher l'argent. Le problème, c'est qu'on ne les a pas versés comme ça. On nous a obligés à mettre les gens à la porte comme on jette un mouchoir quand on a fini de s'en servir. Absolument lamentable. Ça, c'est la politique du gouvernement. Il fallait faire tourner ce volant de chômeurs, le brasser un peu pour avoir la paix sociale. Les médias libres, c'est quoi finalement ? C'est un outil absolument indispensable dans un pays démocratique. J'estime que les médias que nous avons en dehors des médias libres sont tous des médias qui sont liés au pouvoir de la finance et au pouvoir de l'argent. Les journalistes n'y sont pas libres. On voit avec le niveau de retenue des journalistes sur la télévision française, même celle de l'État, justement celle-là, c'est assez innommable. Ils se sont, j'oserais pas dire le mot, je ne vais pas le dire d'ailleurs, mais vous avez tous compris de ce que j'en pense. Lamentable. Nous avons, nous, une fonction sociale de base. Celle de dire les choses que nous voyons autour de nous, et nous pouvons le faire justement puisque nous sommes libres en toute liberté, nous pouvons l'écrire, nous pouvons le dire. Personne, jusqu'à preuve du contraire, encore dans cette démocratie, ne nous l'a interdit. Ça pourrait venir, remarquez, hein. Mais pour le moment, personne ne nous l'a interdit. Bon, tant qu'on peut le faire, nous devons continuer à le faire. Et nous devons continuer à le faire, quels que soient les moyens qu'on nous laisse. Ça, c'est ma conviction profonde. Une radio comme la nôtre, on va y perdre un certain nombre d'employés. De fait, il nous restera encore un type d'emploi aidé quand même. On a un contrat à venir. Bon, je ne sais pas si vous en avez. Les contrats à venir, c'est quelquefois difficile à gérer, même très difficile à gérer quelquefois. Mais c'est toujours ça. Et puis si on peut aider ce jeune à s'insérer dans la vie sociale, tant mieux. On va continuer à avoir pour un certain temps des contrats à durée indéterminée. Bon, payé au SMIC, bien sûr, comme d'habitude, mais bon, on aura encore ça. Et puis, on va devoir continuer à accomplir notre mission de communication sociale de proximité, comme on dit, une jolie notion qui nous a permis de maintenir un fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est une autre histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si on devait disparaître, si on était... mais ça serait dommage parce que j'ai l'impression, malgré tout, après bientôt plus de 40 ans de bons et loyaux services vis-à-vis des médias libres, j'ai l'impression qu'on est indispensable et qu'on a une reconnaissance autour de nous de la part d'un certain nombre de citoyens qui vaut bien qu'on continue à trimer dans les pires conditions que l'on nous fait.
Les solutions qui ont été évoquées, c'est déjà la coopération, c'est la très importante. Mais à part ça, c'est quoi? C'est le rapport de force politique, peut-être, en associant les lecteurs, les auditeurs, etc.
Je prends mon petit rôle d'utopiste qui a envie de dire fuck à tout le système. C'est que, en fait, nous, on est hyper indispensables et on est en galère. Les agriculteurs, ils sont hyper indispensables et ils sont en galère. Les associations, elles sont hyper indispensables et elles sont en galère. Tous les gens qui en gros, font des choses pour la société, pour le bien-être de tout le monde, sont en galère. Et peut-être que tous ensemble, on peut faire des choses qui sont intéressantes. On peut aider les agriculteurs sur une partie de notre temps pour qu'eux nous aident aussi en nous fournissant de la nourriture. Peut-être que les personnes qui construisent des trucs, qui peuvent nous aider à trouver des locaux. Enfin, les idées de créer des choses ensemble, comme le font par exemple à la coopérative intégrale catalane, où ils essaient de réinventer le rôle de l'État en l'autogérant, bah peut-être qu'il y a des choses à creuser aussi et essayer de regarder d'autant plus les combats des autres pour essayer de créer quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup à réfléchir avant de faire quelque chose de concret, mais il ne faut pas oublier qu'on a tous besoin des autres.
Oui, et puis juste dire, un média, il vit pas sans les gens qui l'écoutent, qui le regardent, qui voilà. Donc c'est aussi une prise de conscience collective de l'utilisation qu'on peut faire de nos médias. Donc voilà, il faut aussi peut-être s'intéresser aux médias indépendants sur chacun de ces territoires, se rendre compte que, enfin, nous on a La Montagne, France Bleu et France 3, mais que il y a aussi Mediacop par exemple, qu'on sort des choses que les autres ne sortent pas. C'est comme ça aussi, c'est en faisant du participatif, en se faisant connaître auprès du public potentiel, qu'on pourra sauver les médias indépendants. C'est-à-dire que c'est à tous les gens, tous les utilisateurs que nous sommes et que vous êtes, qui pourront, je pense, sauver l'indépendance de l'information aujourd'hui.
Moi, je rejoins assez Hélène, j'ai envie d'être utopiste et de croire, je pense que dans le moyen long terme, les choses sont en train d'évoluer, on est dans une phase de mutation de la société et qu'on va aller vers des solutions qui sont beaucoup plus solidaires. Mais en attendant, si demain toutes les associations qui sont essentielles, justement, qui sont touchées par les contrats aidés, celles qui travaillent avec les enfants, celles qui travaillent avec les vieux, on rêve d'une chose, c'est que tous se disent « Ok, vous voulez arrêter ? Ben on arrête !» Et que l'État soit vraiment dans la merde et obligé de réagir. En ce qui concerne les médias libres, c'est un peu différent, parce que là, l'État se frotterait les mains, évidemment, si on arrêtait tous. Il serait vachement content. Et dans la notion de court terme, moi je rejoins aussi un peu ce que disait Jean-François, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je rêve là qu'on arrive à se grouper, c'est-à-dire qu'au niveau d'un département, on n'est pas très nombreux, ou d'une région, si on arrive à discuter ensemble, il ne s'agit pas de se marier et d'aller faire la fête ensemble tous les jours, mais déjà si on arrive à discuter ensemble, à porter un message auprès des décisionnaires, peut-être à l'instar de ce qui s'est passé avec la CPML, on serait un peu plus entendu, chacun pouvant travailler pour sa chapelle après, parce que ça aussi c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a tous envie de faire des choses ensemble, mais à un moment donné on se partage tous aussi très vite sur le petit détail, et où on a entre les ultra-anarchistes et puis ceux qui sont un peu plus en compromis, on a du mal à tomber d'accord, mais on peut laisser tomber ça, et dans l'urgence, et c'est justement dans l'urgence souvent qu'on arrive à passer ces guerres de chapelle et à se dire ben, faisons pression auprès d'abord de l'opinion publique, de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent, pour les informer, et ensuite en se groupant pour exister un peu auprès des élus et les mettre face à leurs contradictions. Là, on pourrait peut-être avancer dans l'urgence et essayer d'obtenir quelques petits pansements sur la jambe de bois.
Malheureusement, l'heure tourne et il va falloir qu'on s'en tienne là, en tout cas pour l'émission de radio, puisque le débat continue ici à Cor, dans le Lot, puisque je vous le rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que cette émission est en indirect, donc depuis Cor, en ce 24 septembre. C'était Presse Libérée, donc du mois d'octobre. On se retrouvera le mois prochain dans un tout autre lieu, dans le pays de Fort-Calquier. En tout cas, merci à vous toutes et tous de nous avoir accueillis. Déjà, merci à Antenne Doc et à Fred à la technique, et d'avoir participé aussi à cette discussion. Et ben, bonne suite à vous. À bientôt.
Moi j'écris des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Moi qui vous vois toute la journée, vous avez pas l'air de rigoler, le matin vous partez au boulot, le soir vous rentrez au tombeau. Je veux pas cracher sur vos petites vies, mais quand même elles m'ont l'air pourries, vous allez bouffer en grande surface, vous devrez savoir que c'est dégueulasse. Vous prenez jamais le temps de rien, vous venez teigner comme des chiens, et puis après pour vous calmer, vous en achetez une nouvelle télé. Je crois que ça va vous faire du bien, les téléfilms américains, la propagande de l'autre B, les jeux où on gagne du pognon. Vous avez pas encore compris que vous en aurez jamais assez, que c'est tant pis de mépris qui vous boufferont jusqu'au trognon. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire que vous l'êtes bien, c'est certain, c'est certain. Si j'avais voulu l'inventer avec toute ma bonne volonté, jamais je serais allé si loin, c'est certain, c'est certain. Tous dans le même panier, vous pourriez pas tous y rentrer. Plus moi ça me filerait le bourdon de voir une telle concentration. Constellation, conspiration, consternation. La connerie individuelle, même si parfois elle me dépasse, ne sera jamais aussi cruelle que la sacro-sainte connerie de la masse. Celle qui nous fait faire la guerre, qui nous fait voter pour des cons, qui dans un land instinct grégaire nous fait respecter notre patron. Faut dire quand même cet enfoiré sur nous qui fait son pognon. Il nous la met toute la journée, il faudrait qu'on reste mignon. Et je vous parle pas des banquiers qui ont dévalisé le monde entier sans que personne lève le petit doigt. Moi j'ai pas droit au chic en bois, et toi tiens droit, non tiens pas droit, toi t'es comme moi. Mais que faudra-t-il qu'ils nous fassent pour qu'au final on réagisse, si les familles nous laissent de glace, si Serge Dassault protège nos vices. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est pas pour vous rendre moins con, mais pour vous dire qu'il y a des gens bien, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ils sont 200 fois plus nombreux que la bande d'imbéciles heureux qui nous emmène tous au carton avec trompette et clairon. Le problème c'est qu'on se parle pas, coincé dans le chacun pour soi, persuadé qu'on est les seuls à voir qu'on va se manger la gueule.
Mais ça, on va pas se rater, ça.
Alors je lance ça sans trop y croire, parce que je vis de musique et l'espoir, mais là vraiment il serait grand temps que le bon peuple montre les dents. Et qu'on explique qu'une fois pour toutes à ces salauds qui surfent nos doutes qu'on va les jeter en prison. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pas qu'il y a déjà peut-être pas ce quoi. Puis quand on est là réunis, on a qu'à décider d'un jour. Moi je proposerai le lundi pour enfermer tous ces vautours. Je sais pas où ça nous mènera, mais ça pourra pas être pire que de laisser à ces scélérats le soin de bousiller notre avenir. Moi j'ai écrit des petites chansons, c'est que je sais pas comment vous dire qu'une petite révolution leur redonne à tous le sourire.